Bienvenidos a este informativo de Radio France International.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Votre radio dans toute sa richesse et toute sa diversité. Ce soir, c'est avec Hermine Roumilac de la rédaction chinoise. Washington, Londres et Wellington accusent Pékin derrière les cyberattaques contre leurs institutions publiques. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Pour la rédaction brésilienne, Lucia Musel.
Bonne nuit.
Vous reviendrez sur la visite d'Emmanuel Macron au Brésil. Et Alireza Manavzadeh de la rédaction en persan. À propos de la venue à Téhéran d'Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est encore l'attentat de Moscou. On l'annonçait dans Action du Monde il y a pile une semaine à cette heure-ci. Aujourd'hui, on apprend que 9 personnes soupçonnées de lien avec le groupe État islamique qui a revendiqué l'attaque, qu'elles ont été arrêtées lundi au Tadjikistan. Les 4 tireurs qui ont mené l'assaut contre le Crocus City Hall, cette salle de concert de la banlieue de Moscou, avaient été arrêtés auparavant. Ils sont d'origine tadjik. Ils ont tué donc 143 personne. Alors Lucia, le Brésil, qui entretient toujours des relations cordiales avec la Russie, malgré la guerre en Ukraine, s'est-il exprimé sur cet attentat ?
Très brièvement, la diplomatie brésilienne a publié une note le vendredi soir même dans laquelle mettait l'accent sur la solidarité envers les victimes et ses proches, ainsi qu'à l'égard du peuple et du gouvernement de la Russie. Le Brésil a réaffirmé sa ferme condamnation de tout acte de terrorisme, lit-on dans le texte, qui ne mentionne pas les éventuels auteurs de l'attentat à ce stade-là, c'est-à-dire il y a une semaine. Parmi la liste de victimes, il n'y a pas de Brésil. Précise-t-on. Ensuite, silence radio du côté du gouvernement brésilien qui semble préférer garder sa neutralité par rapport aux accusations faites par le président russe Vladimir Poutine à l'encontre de l'Ukraine sur cette attaque. Kiev l'a fermement démenti dès le départ, mais le président russe et ensuite le chef des services d'intelligence russe Alexandre Bornikov a insisté qu'il y avait des traces ukrainiennes dans l'attentat. Il accuse aussi l'Occident d'avoir participé à la préparation de cette tuerie revendiquée par le groupe État islamique.
Alors justement, Alireza, l'État islamique est également connu sous le nom de Daesh et a des ramifications en plusieurs endroits du monde. En janvier, Daesh du Khorasan avait frappé l'Iran. Alors pourquoi l'Iran ? Pourquoi la Russie maintenant sont-ils dans la ligne de mire de ce groupe terroriste ?
Commençons par la République islamique d'Iran. Un État strictement chiite. L'État islamique est une organisation politico-militaire d'idéologie salafiste et sunnite, donc farouchement hostile au chiisme. Ce clivage a pour origine un conflit de succession apparu après la mort du prophète au 7e siècle. L'hostilité envers le chiisme est un élément constitutif de l'identité de Daesh. Il considère les chiites comme des apostats irréductibles. N'oublions pas que Daesh s'est constitué au départ pour combattre l'État exclusivement chiite en Irak que les Américains avaient imposé à ce pays. D'autre part, la République islamique d'Iran a combattu l'État islamique en Syrie en armant des milices chiites en Syrie et en Iran pendant ces dernières décennies. C'était le général Qassem Soleimani qui pilotait ces brigades. Il était considéré par le régime iranien comme un bouclier contre Daesh.
Et quant à la Russie ?
Quant à la Russie, en plus de soutenir Bachar al-Assad et de tuer ses opposants dans la guerre civile syrienne, elle devait également être punie pour ses relations amicales avec la République islamique. De plus, ce pays règne toujours sur une large partie du Grand Khorasan. Le Grand Khorasan est une terre historique qui comprenait autrefois l'est et le nord-est de l'Iran, le sud et le sud-est du Turkestan, le sud-est de l'Ouzbékistan, tout l'Afghanistan, le Tadjikistan et certaines parties du Pakistan.
Alors pourquoi ces territoires, pourquoi cette vaste région, un cheval sur plusieurs États, est important pour Daesh ?
Vous savez, historiquement, le Khorassan était non seulement le berceau de la culture islamique, mais aussi la voie de l'expansion de l'islam vers l'Est. Le 9 juin 2014, lorsque les combattants de l'État islamique ont pris la ville de Mossoul et que leur chef Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé la naissance du califat islamique dans la grande mosquée de cette ville, il a été décidé que le califat islamique, après la conquête de l'Irak et la Syrie, élargirait son territoire dans deux directions. L'une, en direction de l'Afrique du Nord, avec la conquête de toutes les terres qui faisaient autrefois partie du califat islamique, y compris l'Espagne, et l'autre, en direction de l'Est, avec la constitution du Grand Khorassan, qu'ils appellent province du Khorassan.
Et à la rédaction brésilienne, Lucia Mouzel, vous êtes également intéressé à expliquer comment l'Asie centrale peut devenir le nouveau bastion de l'État islamique.
Oui, et vous imaginez, pour nos auditeurs et internautes brésiliens, c'est un sujet tellement loin. Vraiment, il faut parfois prendre le temps d'expliquer ces types de choses, comme l'explique d'ailleurs notre collègue très bien. Donc, nous avons compté sur l'expertise d'un spécialiste interviewé ici à RFI, David Gauzer, qui étudie l'islamisme et le terrorisme dans l'espace post-soviétique. Et selon lui, la branche de l'État islamique du Khorassan est souvent présentée comme étant afghane, mais sa région d'influence est bien plus vaste, vers l'Asie centrale, le nord-est de l'Iran, grâce au renforcement des djihadistes qui étaient en Irak et en Syrie, arrivés après 2020. Les chercheurs ont expliqué que dans cette région-là, les terroristes désormais visent le Tadjikistan, qui est perçu comme un pays très susceptible malgré l'alliance du régime en place avec Moscou. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ce soutien russe, y compris militaire, s'est beaucoup affaibli, laissant le Tadjikistan encore plus vulnérable.
Ali Reza, je reviens vers vous. Pour quelles raisons la Russie et l'Iran continuent-ils de nier la responsabilité de Daesh dans ces attentats perpétrés contre ces deux pays, et donc le dernier en date contre cette salle de concert près de Moscou?
La raison principale est que ni l'un ni l'autre ne veulent admettre que leurs services de sécurité ont failli et qu'ils sont incapables de contrecarrer les attaques planifiées de l'État islamique sur leur territoire. Concernant la Russie, notre rédaction a interrogé Touraj Atabaki, spécialiste de Russie. Écoutons ce qu'il dit.
با خوندن جنگ و بگن در این جنگی که این اتفاق افتاده و این عملیات تروریستی
علی رضا quelle est son analyse?
Il y a deux raisons majeures pour que Poutine nie l'implication de Daesh du Khorassan dans l'attentat du 22 mars et en attribue la responsabilité à l'Ukraine. La première est que les forces russes sont usées par la guerre en Ukraine qui dure depuis 2 ans. Et vu l'ampleur de l'attentat, d'après Poutine, on ne peut pas accepter qu'un groupe terroriste sans soutien d'un État puisse le perpétrer. La deuxième raison est pour camoufler la défaillance des services de sécurité russes.
Hermine Roumilac de la rédaction chinoise, les réactions de Pékin maintenant après cet attentat?
Il y a deux réactions officielles et les réactions sur les réseaux sociaux tolérées par les autorités. Côté officiel, c'est un peu similaire à ce qui s'est passé en Brésil. Donc, le président chinois, qui est très lié, ami avec Poutine, a fait une déclaration officielle. Donc, le président chinois Xi Jinping s'est dit choqué d'apprendre les nouvelles de cette attaque terroriste meurtrière. Donc, il a dit au nom du gouvernement chinois et du peuple chinois, il a exprimé ses sincères condoléances aux victimes et à leur famille, et que la Chine s'opposait à toutes les formes de terrorisme, condamnant fermement les attaques terroristes et soutenir fermement les efforts du gouvernement russe pour maintenir la sécurité et la possibilité nationale. Et j'ajoute aussi que du côté chinois, il n'y a pas de commentaires comme au Brésil sur les accusations de Poutine sur l'État ukrainien.
Et puis vous avez lu la presse chinoise, parcouru les réseaux sociaux. Quelle est la réaction?
La réaction, c'est un peu contraire à ce que dit officiellement. Donc, en fait, les critiques ne concernent pas Daesh, mais visent plutôt les États-Unis pour cause. Vous savez que l'ambassade des États-Unis en Russie a averti les autorités de Moscou dès le 7 mars, donc c'est-à-dire 2 semaines avant l'attaque, mais que le président russe Poutine n'avait pas pris cela au sérieux et a qualifié de cet avertissement de provocation. Même après la revendication de l'État islamique de province de Khorasan, le média officiel du Parti communiste chinois Global Times a continué à critiquer Washington. Dans un éditorial, il dit « Washington ne cesse de dire qu'il fournit à la Russie des renseignements d'alerte précoces pertinents, mais ne mentionne pas les informations clés des services de renseignement. » Donc après l'attaque terroriste, les États-Unis ont mis du temps à réagir. Selon toujours cet éditorial, il dit que sur les réseaux sociaux international. Donc, ça a été critiqué aussi de ce comportement des États-Unis. Sur les réseaux sociaux très contrôlés en Chine, on peut lire les commentaires hostiles aux États-Unis en les qualifiant aussi d'hypocrisie et d'autres noms. Ceux qui osent défendre les États-Unis ont pris pour cible Dadak.
Alors, cette branche de l'État islamique est non seulement connue de la Chine, oui, parce qu'ils ont déjà mené, ces terroristes, des opérations contre des Chinois et contre des intérêts du pays.
Tout à fait, oui. Je pense que ce nom, donc on peut dire YSYSK, est le cauchemar des autorités chinoises, surtout pour leur intérêt en Asie centrale en général et en Afghanistan et Pakistan en particulier. Donc YSYSK s'est même associé à la cause des Ouïghours. Ils ont repris le terme de génocide pour qualifier les actions des autorités chinoises à Xinjiang. Donc vous savez, cette province à l'ouest de Chine. Bien sûr, ce n'est pas pour les mêmes causes que les défenseurs des droits de l'homme occidentaux, mais dans les articles de revendication de cette branche Daesh, les appels sont lancés pour les mobilisations des Ouïghours, les appelant à mener une guerre sainte à travers Turkestan oriental. Et cela aboutit à un investissement à travers leurs médias, donc en disant que... appelé à la Chine pour qu'elle mette fin au génocide des musulmans. Si Pékin ne tenait pas compte de ses propos, alors l'article menaçait des attentats suicides à un degré, je cite, qui dépasserait votre capacité à le faire. Donc Daesh a également menacé l'ambassade de Chine à Kaboul en février dernier. Pékin continuait de réprimander les talibans au sujet de la sécurité des citoyens chinois, mais il est peu probable que les talibans puissent apporter des réelles améliorations en matière de sécurité. Donc, le week-end dernier, un attentat en Pakistan a fait 6 morts, dont 5 Chinois ingénieurs. Pour l'instant, il n'y a pas encore de revendication, mais la Chine a promis de punir les auteurs de ces actes ignobles. Donc, le danger n'est jamais très loin.
Lucia Mouzel, d'un point de vue diplomatique maintenant, le Brésil se retrouve dans une position délicate. Il exerce la présidence du G20 cette année et pourrait inviter Vladimir Poutine au sommet des chefs d'État qui aura lieu au mois de novembre.
Tout à fait, sauf que le président russe, on le sait, il est la cible d'un mandat d'arrêt international à cause de la guerre en Ukraine. La question de l'invitation n'a pas encore été tranchée par Brasilia, mais elle a été ouvertement abordée entre les présidents Lula et Emmanuel Macron, qui étaient en visite au Brésil cette semaine. Lors d'une conférence de presse, un journaliste l'a posé cette question et le président français a répondu qu'il n'avait pas de leçons à donner et Lula était responsable des invitations qu'il fera. Mais Macron a aussi souligné que la présence de Poutine devrait être l'objet d'un consensus entre les pays membres du G20, car si c'est un rendez-vous qui n'est pas utile et qui va créer de la division, il ne faut pas le faire, ce sont ses mots. De son côté, Lula a dit qu'il se trouve à des milliers de kilomètres de l'Ukraine, il n'éprouve pas la même névrosité, c'est le mot qu'il a employé,
oui.
que les Français, et qui sont donc plus proches de ce conflit. Et il a donc estimé qu'il faut encore trouver une voie de dialogue pour la paix, etc. C'est son discours depuis le début.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cet attentat et les suites de cet attentat commis, revendiqué en tout cas par l'organisation de l'État islamique à Moscou il y a de cela pile une semaine. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
20 degrés à Paris, 20 degrés à Montréal.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
C'était mardi dernier. Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, était à Téhéran pour rencontrer les responsables iraniens, y compris le guide suprême, Ali Khamenei. Alireza Manavzadeh, la rédaction persane, pourquoi cette visite au lendemain de l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant un cessez-le-feu à Gaza? Et d'ailleurs, que sait-on du contenu de ces discussions?
Oui, selon un communiqué publié par le site du guide suprême, le chef du Hamas et la délégation palestinienne se sont entretenus avec le guide qui a salué la résistance unique des forces palestiniennes et a assuré la délégation du soutien indéfectible de la République islamique à la cause palestinienne. Justement, la visite faisait suite à l'adoption de cette résolution par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ismaïl Haniyeh a déclaré lors d'une conférence de presse à Téhéran qu'Israël connaissait un isolement politique sans précédent et qu'il perdait, je cite, sa couverture et sa protection politique, même au sein du Conseil de sécurité. Il a ajouté que les États-Unis ne sont plus en mesure d'imposer leur volonté à la communauté internationale.
Alors, il fait sans doute allusion à l'abstention des États-Unis lors de ce vote de la résolution du Conseil de sécurité. Vu d'Occident, il n'y a presque rien de nouveau, finalement, dans les propos d'Ali Khamenei et dans les déclarations du chef du Hamas concernant cette guerre. Quels sont les commentaires des analystes iraniens?
J'ai remarqué que leurs avis divergent selon leur vision globale du conflit. Cela montre bien que les Iraniens sont divisés comme partout dans le monde sur ce sujet. À titre d'exemple, je vous fais écouter certains d'entre eux.
خب در ابتدا باید بگیم که این سفر چه پیامی داره تا بفهمیم که چه تأثیری بر مذاکرات داره. به پیامش دو تا پیام اصلی.
Ali Reza, qui parle en ce moment?
Il s'appelle Hossein Alizadeh, c'est un expert en géopolitique et relations internationales. Il était attaché diplomatique de l'ambassade d'Iran en Finlande, mais après les élections présidentielles truquées de 2009, il a démissionné et s'est réfugié en Finlande.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il dit que cette visite avait deux messages à transmettre. Le premier est que le Hamas est inexpugnable et contrairement à ce qu'avait promis Netanyahou, Israël ne peut pas le détruire. Le deuxième et le plus important est qu'Ismaël Haniyeh et Ziad Nahaleh, le chef du djihad islamique qui l'accompagnait dans ce voyage, voulaient signifier nous avons, nous, déclenché cette guerre par l'attaque du 7 octobre, mais c'est à Israël d'y mettre fin. Cependant, il persévère. La résolution du Conseil de sécurité montre qu'il y a un consensus international sur un cessez-le-feu immédiat. Israël n'a même pas le soutien des États-Unis. Par conséquent, pour la poursuite de la guerre, il se trouve dans une très mauvaise situation.
Ça veut dire qu'il désapprouve la position du Premier ministre israélien. Est-ce qu'il y a d'autres avis là-dessus?
Exactement, oui. Je vous fais maintenant écouter un avis tout à fait différent, celui de Mohamed Raedi, enseignant de relations internationales à Washington.
مجدد با ایران اما من فکر میکنم که در عرصه مذاکرات حماس خواستهایی که داشته یعنی خواسته اولش خروج
ادینو ا کمپرندر اس کو دی محمد کیلی
ا ایدی لو شف دو حماس است allé à Téhéran pour demander de l'aide et il sait qu'Israël n'acceptera jamais les conditions du Hamas pour entrer en pourparlers. Le retrait total d'Israël de Gaza et le retour des réfugiés ne sont pas des conditions acceptables pour Netanyahou. Le seul sujet de négociation qui lui importe, c'est l'échange de prisonniers. Et quoi que l'on dise, Israël attend la fin du Ramadan pour mener son opération terrestre à Rafah. Quant aux différends entre Joe Biden et Netanyahou, cela vient du fait qu'une large partie de l'électorat des démocrates aux États-Unis soutient la cause palestinienne et, pour les mobiliser, l'administration Biden se voit dans l'obligation de souffler en ce moment le chaud et le froid. D'après lui, Israël dispose de leviers solides, non seulement au sein de l'administration américaine, mais aussi au sein de la société civile des États-Unis. Par conséquent, une opération terrestre à Rafah n'affectera pas les bonnes relations des États-Unis et Israël.
C'était Ali Reza Manavzadeh de la rédaction en persan, de retour dans Accent du Monde. Revenons à présent sur la visite du président français au Brésil. Un long voyage de 3 jours pendant lequel il était question de renouer les liens entre les deux pays, de signer une 20aine d'accords, également de faire beaucoup de selfies. Emmanuel Macron et Lula, Lucia Mouzel.
Oui, ils se sont bien amusés ces deux leaders. On a assisté en direct via les réseaux sociaux à une pluie de selfies, vidéos, des messages amicaux, des échanges de sourires entre les deux présidents, souvent main dans la main. Les internautes se sont même amusés à comparer ces images à celles d'un couple tout juste marié. Et M. Macron lui-même a relayé ces photos lors de son post pour remercier le président Lula pour son accueil, en écrivant en portugais que oui, c'était un vrai mariage entre la France et le Brésil, que la France aime le Brésil et l'inverse aussi. C'était manifestement dans cette bonne ambiance que les deux dirigeants se sont retrouvés d'abord à Belém du Pará avec à la clé une balade dans l'Amazonie, ensuite à São Paulo, Rio et finalement Brasilia pour une visite d'État. Par ces destinations, déjà on distingue bien les 3 principaux enjeux de ces voyages: l'environnement, les partenariats bilatéraux et l'axe politique diplomatique.
Oui, donc ils avaient beaucoup de choses à se dire, d'autant que Emmanuel Macron n'avait jamais mis les pieds au Brésil depuis qu'il est au pouvoir.
Oui, et je peux vous dire que cette absence a beaucoup manqué aux Brésiliens, mais pas que. Hein. Les Français qui opèrent entre les deux pays, les expatriés, le monde des affaires aussi, tout le monde l'a senti, cet éloignement, malgré les 200 ans d'amitié entre les deux pays et une relation élevée au degré de partenariat stratégique depuis 8 ans. Il faut bien sûr noter que juste après l'élection de Macron en 2017, le Brésil est sombré dans une sorte de vide diplomatique pendant les 4 années de présidence de Jair Bolsonaro. Mais indépendamment de cela, l'Amérique latine ne semble pas être une priorité pour le président français, qui n'y est jamais allé qu'une fois, en fait, pour un sommet du G20 en Argentine. Avec le retour de Lula au pouvoir, Macron lui avait promis de lui rendre visite en 2023. Finalement, il a mis un peu plus de temps à le faire, et une raison supplémentaire pour expliquer cet agenda très chargé de rendez-vous et en symbolisme à la fois.
Alors, venons-en maintenant au bilan de ce voyage tant attendu.
Je me permets de citer le président brésilien qui a dit « Parmi les puissances internationales, aucune n'est plus proche du Brésil que la France, et parmi les pays émergents, aucun n'est plus proche de la France que le Brésil. » Donc, cette visite a surtout servi à ce que les deux présidents aient le temps de partager des moments ensemble, de mettre en avant leurs accords plutôt que leurs divergences. Ces désaccords ont marqué une bonne partie de leur dernière rencontre sur la scène internationale, d'abord sur la guerre en Ukraine, mais surtout à propos du traité commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Interviewé par notre correspondante à Brasilia, le professeur en relations internationales Vinícius Rodrigues Vieira de la Fondation Getúlio Vargas estime que les deux pays sont utiles l'un à l'autre puisque les deux cherchent une certaine autonomie dans le monde très polarisé de nos jours entre la Chine et les États-Unis.
Nesse sentido, o Brasil talvez seja um parceiro no sul global mais confiável, haja vista que a Índia está virando cada vez mais.
Alors, que dit Monsieur Vir, comme vous dites?
Il dit que dans ce contexte, aux yeux de la France, le Brésil semble être le partenaire le plus fiable par rapport à d'autres puissances émergentes comme l'Inde, de moins en moins démocratique, ou l'Afrique du Sud, très influencée par la Chine et la Russie. Et du côté du Brésil aussi, la France est un partenaire historique privilégié en Europe, d'autant plus que Lula et Macron s'entendent bien au niveau personnel et contrairement au chef du gouvernement allemand Olaf Scholz, par exemple.
Et malgré leurs différences à propos de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, le président français a réaffirmé son opposition à ce traité.
Ah oui, c'était la douche froide aux centaines d'hommes d'affaires qui l'ont attendu lors d'une réunion de business à São Paulo. Mais le président français n'a pas mâché ses mots. Pour lui, cet accord est très mauvais. Ensuite, aux côtés de Lula, dans une conférence de presse, il a rajouté « Nous serions fous de continuer de négocier un texte qui date d'il y a 20 ans, dit-il. Monsieur Macron a d'ailleurs bien insisté sur le fait que les relations entre la France et le Brésil n'ont rien à voir avec les différentes positions que les deux pays peuvent exprimer au sein de leurs blocs respectifs, soit l'Union européenne et le Mercosur. Lula aussi l'a réconforté dans ses sens, comme le note cet autre spécialiste de relations internationales interviewé par notre correspondante à Brasilia, Raquel Miura. Cette fois, je vous propose d'écouter William Gonçalves de l'Université de l'État de Rio de Janeiro.
As possibilidades de acordo, de entendimento, elas se dão mais no plano.
Il pense que pour le moment, le potentiel d'accords bilatéraux est beaucoup plus important qu'au niveau européen et sud-américain. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans les domaines d'investissement, de défense, avec la construction de sous-marins français au Brésil, avec transfert de technologies. Il note aussi que la vraie amitié franco-brésilienne, on la voit là.
C'était Lucien Mouzel de la rédaction brésilienne de RFI. La guerre se déroule sur le terrain avec des armes, mais également sur Internet. Vous le savez, le phénomène est grandissant, au point que Washington, Londres, Wellington accusent Pékin d'être derrière les cyberattaques contre leurs institutions. Hermine Roumilac, de la rédaction chinoise. La Chine est montrée du doigt une fois de plus.
Oui, comme vous savez, ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas non plus la dernière fois que la Chine est épinglée par ces accusations, mais c'est la première fois que les 3 des 5 membres de fameux réseau d'échange de renseignements Five Eyes, donc 5 yeux, qui ont fait du début de cette semaine presque simultanément des annonces similaires pour dénoncer plusieurs cyberattaques contre leurs institutions publiques venant des acteurs chinois ou groupes des hackers, selon eux surtout, soutenus ou gérés par le puissant ministre de la Sécurité de l'État chinois. Et ils disent aussi avoir protesté fermement auprès des parties concernées.
Alors concrètement, que reprochent ces pays à la Chine ou à ces hackers chinois?
Alors ce lundi, le ministre de la justice américaine a annoncé avoir inculpé 7 Chinois en allant même afficher leur nom et leurs photos sur leur site pour une prolifique opération de piratage informatique à l'échelle mondiale pendant 14 ans visant à contribuer aux objectifs d'espionnage économique et de renseignement intérieur de Pékin. Selon Washington, un groupe de hackers baptisé APT-31 est à l'origine de ce programme de cyberespionnage qui serait géré par le ministère de la Sécurité de l'État chinois depuis la ville de Wuhan. Donc vous savez, c'est la fameuse ville d'où partait l'épidémie de coronavirus. Donc, ils auraient envoyé plus de 10 000 courriers malveillants à des entreprises et des hommes politiques, des candidats aux élections et des journalistes basés aux États-Unis et à l'étranger.
Le gouvernement britannique parle d'un défi historique.
Oui, au Parlement britannique, il a accusé des acteurs affiliés à l'État chinois avaient commis 2 cyberactions malveillantes en 2020 et 2021 contre les parlementaires critiques de Pékin et contre les commissions électorales du Royaume-Uni. Donc c'est pour ça que le Premier ministre britannique a dit que la Chine, c'est un défi historique.
Qu'en est-il en Nouvelle-Zélande?
Alors, Nouvelle-Zélande, c'est l'un des pays les plus favorables à la Chine, côté occidental. Donc cette fois-ci, il a accusé aussi un autre groupe lié à Pékin, donc cette fois-ci c'est APT-40, d'avoir piraté en 2021 des systèmes informatiques du bureau de parlement en échange de l'élaboration et de publication des lois.
Alors que dit la Chine face à toutes ces accusations?
Le gouvernement chinois, bien sûr, a rejeté en bloc toutes ces accusations de participation à des campagnes de piratage contre les entités étrangères. La Chine appelle ces exemples dès que les attentions se tournent vers elle, accusant de son côté Washington d'être le plus grand empire de piratage au monde.
Alors justement, ces accusations sont d'autant plus préoccupantes qu'il y a des élections importantes aux États-Unis. Est-ce que ça peut avoir un impact?
Et en Bretagne aussi, les deux, c'est en novembre. Donc en fait, j'ai interrogé pour ce sujet M. Li Renqing, il est spécialiste d'information et d'études basées à Washington. Donc on l'écoute.
Et quel est donc son avis?
Alors, je résume, hein, il dit que c'est probablement un moyen de dissuasion de la part des pays étrangers, mettant cette question à l'ordre du jour et, espérons-le, effrayer le gouvernement chinois. Donc, les hackers ne prennent pas plus de mesures, mais ils pensent que c'est peu probable. Ils vont encore changer de visage, passer à d'autres canaux pour continuer à mener des actions. Donc, il faut dire que... L'important, c'est de faire peur à la Chine, de voir s'ils vont changer la vie ou pas.
Voilà ce qu'on pouvait dire. C'était Action du Monde, réalisé ce soir par Lorraine Mimosa.